Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
Les visages de Pascal.
Je vous prie que l'on me transporte aux incurables où je veux mourir. Le Seigneur m'a donné une sainte famille. Et je dois la quitter. Mourir chez les incurables, les pauvres, me semblera mourir dans le sein du Christ. Gilberte, ma sœur, je veux qu'on m'apporte le viatique.
Quand, en 1662, Pascal meurt, à 39 ans seulement, Gilberte et sa famille sont à la manœuvre. La famille garde l'empreinte du visage de Pascal avec un masque mortuaire. C'est une coutume de l'époque que le milieu de Port-Royal, auquel il appartient, goûte particulièrement. Les portraits peints et gravés de Pascal dérivent tous de ce masque. Il leur manque donc un peu de la connaissance, de l'expérience de Pascal vivant. Pascal, auteur, nous échappe aussi. Quand Arnaud, le leader de Port-Royal, est exclu de la Sorbonne, Pascal rédige, en 1656-1657, les 18 provinciales. Mais c'est pour une part un travail d'équipe et il signe d'un pseudonyme. D'ailleurs, dès que ses publications deviennent plus fréquentes, il instaure un double. Louis de Montalt pour les provinciales. Amos de Tonville quand il organise ensuite son concours de la roulette. Le nom de Salomon de Tulti apparaît aussi dans les pensées, autant d'anagrammes. Les pensées, le maître livre, mais insaisissable lui aussi. À sa mort, Pascal laisse des papiers qui ne sont pas exactement classés. De même qu'on a pris le masque du visage, on prend l'empreinte des futures pensées avec une copie originelle. Mais nous ne conservons que les deux copies de celle-ci. Ce matériau a été utilisé pour la première édition, en 1670, qui était conçue pour défendre Port-Royal autant que pour honorer Pascal. Dès le milieu du 19e siècle, on comprit qu'il était nécessaire de concevoir une autre organisation du texte, mais comment faire ? Les travaux d'édition se sont multipliés depuis, ils approchent de l'exactitude tout en ouvrant sur l'incertain et l'imprévisible. Pascal, comme aspiré par un perpétuel mouvement de fuite, nous dépasse toujours.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Laurent Thirouin, bonjour.
Bonjour.
Qui nous vient de Lyon, où il enseigne, et qui a vu de près l'exposition que la Bibliothèque nationale de France consacre à Pascal, la raison et le cœur, ou le cœur et la raison, parce que l'ordre du cœur dépasse l'ordre de la raison. Belle exposition d'ailleurs.
Très belle exposition, avec des pièces tout à fait rares. Il faut se précipiter pour la voir. Pendant un siècle, on ne les reverra plus. Hein.
L'exposition dure jusqu'au 29 janvier. Et au centre, il y a le fameux masque mortuaire que j'évoquais, et qui a été prêté par la bibliothèque.
Et le manuscrit des pensées.
Qui a été prêté par la bibliothèque des Amis de Port-Royal, lieu fort secret dont on ne donnera pas l'adresse ici. Et je voudrais que vous nous parliez de, non pas de l'enfance extraordinaire de Pascal, dont sa sœur disait qu'il donnait, dès qu'il avait commencé à parler, des marques d'un esprit tout à fait extraordinaire. Il posait des questions sur la nature des choses qui surprenaient tout le monde. Non, mais sur l'éducation très singulière de Blaise Pascal dans sa famille.
Ouais. Pendant assez longtemps, la personne célèbre de la famille, c'était le père. C'était Étienne Pascal, qui était un savant tout à fait digne de considération. Et donc, Pascal a bénéficié d'une éducation donnée par un père très, très capable et qui avait en plus décidé, ce que personne ne fait à l'époque, de se consacrer à cette éducation. Donc, il vend la charge qu'il avait à Clermont, au cours des aides. Il vient s'installer à Paris pour s'occuper de ses trois enfants, et notamment de Blaise, et tout en veillant à ce que le jeune Blaise ne suive pas directement ses traces, donc en lui interdisant de faire des mathématiques. La chose est connue, ça amènera le petit Pascal à se débrouiller tout seul pour recréer une axiomatique et retrouver, donc c'est ce que nous raconte sa sœur et ce que l'on sait par d'autres éléments, la 32e proposition d'Euclide.
Oui, alors Étienne Perrier, il avait aussi autour de lui le père, un
Étienne
milieu
Pascal, oui.
Scientifique,
oui.
Et il y avait des physiciens, les physiques appartenaient à la philosophie, et des mathématiciens dans ce milieu, non ?
Il y avait une petite académie de mathématiques, à laquelle Pascal d'ailleurs dédicacera l'ensemble de son œuvre en 1654. Et on a un texte qui est un très très beau texte, qui est une dédicace de toutes les productions scientifiques de Pascal, telles qu'elles existaient en 1654, donc ses travaux sur le hasard, ses travaux sur l'équilibre des liqueurs, sur l'existence du vide.
Voilà. Alors, puisqu'on parle science, on va entendre des protagonistes qui ont l'esprit scientifique, ce sont ceux de Manuich et Maud. Voilà un film dont vous nous dites... Il faut absolument le faire entendre parce que Pascal est au centre de la narration. Nous sommes à Clermont-Ferrand, là où aura lieu l'expérience du Puy de Dôme, là où a eu lieu l'enfance de Pascal. Jean-Louis Trintignant est un jeune ingénieur qui vient de se réinstaller à Clermont-Ferrand et il va rencontrer fortuitement, mais où est le hasard? Où sont les règles du hasard? Quelle est la géométrie du hasard? Antoine Vitez. Antoine Vitez est un camarade de lycée qui est devenu professeur de philosophie et qui, comme le vrai Vitez à l'époque, est évidemment communiste et application d'un raisonnement pascalien à la question de l'engagement politique.
Hypothèse A, la vie sociale et toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A. Je vais même dire qu'elle en a moins. Admettons que l'hypothèse B n'a que 10% de chance et l'hypothèse A 90%. Néanmoins, je ne peux pas ne pas parier pour l'hypothèse B parce qu'elle est la seule. Je veux dire que l'histoire a un sens parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. Admettons que j'ai parié pour l'hypothèse A et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ses 10% de chance seulement. Alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action.
Dans le cas de ton hypothèse B, la probabilité peut être faible, mais le gain est infini, puisque c'est pour toi le sens de ta vie et pour Pascal le salut éternel.
C'est Gorky ou Lénine ou Maïkovski, je ne sais plus, qui disait à propos de la révolution russe, à propos de la prise du pouvoir, que... la situation était telle à ce moment-là qu'il fallait choisir la chance sur 1000, parce que l'espérance en choisissant cette chance sur 1000 était infiniment plus grande qu'en ne choisissant pas.
Donc il n'y a aucune science qui nous garantisse de l'incertain et de l'imprévisible, qui nous en préserve.
Il reste l'incertain, le hasard, dit Pascal, reste rebelle à toute nécessité, à toute détermination. On ne peut pas prévoir ce qui n'est pas encore. Mais on peut quand même construire ce que lui a découvert. C'est pas grand-chose en réalité, mais c'était un pas énorme. C'était même une révolution qu'il pouvait y avoir une géométrie du hasard. Il appelle ça une géométrie du hasard. C'est-à-dire qu'on peut étudier la manière dont le hasard interfère avec notre ordre selon une rationalité qui relève de la mathématique, ce qu'on appelait à son époque de la géométrie. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve, qui sert dans Manuich et Maud, c'est ce qu'on retrouve dans le pari où il est question fait de chances diverses, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Vitez le transforme un peu en disant parier sur le sens de l'histoire et sur la révolution ou ne pas parier sur le sens de l'histoire. Donc c'est bon, j'aime énormément ce passage. D'abord, d'un point de vue cinématographique, ça a été un choc qu'un film réserve comme ça tant de temps pour une discussion sur le pari de Pascal dans un café. Puis surtout, Romer n'a pas cessé de réfléchir sur cette question du hasard et de l'engagement. Et il s'est approché, je crois, du véritable sens du pari, enfin ce qui, moi, me semble plus près du véritable sens. Là, il en est encore assez loin, d'une certaine manière. Donc, il a bien compris la question de l'engagement, mais il reste pourquoi s'engager plutôt du côté de Vitez ou plutôt du côté d'un chrétien. C'est-à-dire que l'engagement pour l'engagement, ça justifierait n'importe quel type d'engagement. Donc, ce qui a souvent été reproché au pari de Pascal.
Plus on avance dans Manuich et Maud, plus la question chrétienne prend de l'importance. Une autre séquence que vous préférez entre tous deux. Nous sommes le soir de Noël et Vitez et Trintignant vont se retrouver chez Maud, chez Françoise Fabian, une femme divorcée qui les reçoit pour un dîner. Et la discussion devant Maud, qui apparemment est à l'écart et très sérieuse.
En tant que scientifique, j'ai un immense respect pour Pascal. Mais en tant que scientifique, cela me choque qu'il condamne la science.
Il la condamne pas.
À la fin de sa vie, si.
C'est pas exactement une condamnation. Non, enfin... Non, dis.
Non, je m'exprime mal. Prenons un exemple. Par exemple, en ce moment, nous mangeons et nous, en parlant, nous oublions ce que nous mangeons. Nous oublions cet excellent chanturgue. C'est la première fois que j'en bois.
On ne le boit que dans les vieilles familles clermontoises.
Enfin, si on veut.
Les vieilles familles catholiques et franc-maçonnes.
Tais-toi à la fin.
Cet excellent chanturgue. Pascal, sans doute, en avait bu puisqu'il était clermontois. Ce que je lui reproche, ce n'est pas de s'en être privé. Je suis assez pour la privation, le carême. Je suis contre la suppression du carême. Non, c'est lorsqu'il en buvait de ne pas y faire attention. Comme il était malade, il devait suivre un régime et ne devait prendre que de bonnes choses. Mais il ne se souvenait jamais de ce qu'il avait mangé.
Oui, c'est sa sœur Gilberte qui raconte ça. Jamais il n'a dit « voilà qui est bon ».
Eh bien, moi, je dis « voilà qui est bon ».
Bravo.
Ne pas reconnaître ce qui est bon, c'est un mal. Chrétiennement parlant, je dis que c'est un mal.
Mmh. Ouais.
Alors Maud se glisse dans la conversation, puis on va voir d'ailleurs dans la séquence qu'elle prend de plus en plus d'importance. Elle va changer d'ailleurs de vêtements, devenir de plus en plus attirante, au point de fixer l'attention de Jean-Louis Trintignant, qui pourtant avait décidé de consacrer sa vie à une jeune fille qu'il avait aperçue à la messe. C'est un bon endroit pour rencontrer les jeunes filles et à qui il comptait proposer le mariage.
Et avec, qui il se mariera.
Oui, mais laissez sa place au hasard, si vous voulez bien. Alors là, on entend que Pascal n'a pas de corps.
Oui, alors, j'aime bien ce passage, parce que il y a des choses très vraies. C'est sûr que quand on est gourmand, quand on aime la bonne nourriture, ce qui est un peu mon cas, et qu'on est en même temps pascalien, on se sent légèrement tiraillé de l'intérieur. L'anecdote qu'utilise... Trintignant est tout à fait juste. Hein. Ça fait partie de cette spiritualité, qui est une spiritualité du détachement. Pascal n'aurait pas dit, comme Montaigne le disait quelques années plus tôt, « tout bon, il a fait tout bon en parlant de Dieu ». Donc ça, c'est quelque chose qui nous met un peu à distance de Pascal et que voit très très bien le film. Mais en même temps... Ça n'est qu'un artefact. En plus, c'est une caricature qu'aujourd'hui, on a tendance à alimenter de cette notion fausse qui a cours, qui est celle du jansénisme. Alors que le jansénisme est tel qu'il est pratiqué au XVIIe siècle, ce qui est un augustinisme, c'est plutôt une croyance absolue dans la puissance du désir. Les augustiniens, c'est ceux qui croient qu'on est emporté par son désir. Donc c'est pas des gens froids, c'est pas des gens intellectuels. Quant à ne pas croire à la science... Je réentendais ça au début, l'ingénieur Trintignant qui dit « En tant que scientifique, ça me choque, il condamne la science. » Or, c'est un grand scientifique que Pascal. Donc, ce qu'il a d'extraordinaire, ça n'est pas de condamner la science, mais c'est de scientifiquement borner la science. C'est-à-dire que, rationnellement, de dire exactement ce qui ne peut plus relever de la science. C'est exactement l'inverse d'un scientiste. C'est la plus... Il a dans les pensées un segment, une liasse, comme on dit, des papiers enfilés ensemble,
qui s'intitule
Soumission et usage de la raison. Et je crois que c'est quelque chose qui lui donne une extrême puissance pour nous aujourd'hui, qui vivons dans une rationalité plutôt scientifique, qu'un très grand scientifique soit capable de dire qu'il relève profondément de la raison, de dire où la science doit s'arrêter. Et que toute personne qui s'imaginerait, comme je crains que ça soit le cas de quelques personnes autour de nous, toute personne qui s'imaginerait que la science doit donner toutes les réponses, c'est une personne totalement irrationnelle, qui a abandonné sa raison.
On parlait de l'exposition de la BNF, le cœur et la raison. L'ordre du cœur est au-dessus de l'ordre de la raison, ce qui ne veut pas dire que l'ordre de la raison n'a pas à fonctionner.
Oui, il y a trois ordres. C'est évidemment une des grandes, grandes pensées de Pascal et une des grandes visions. Donc l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre du cœur, l'ordre de la charité. Et pour lui, c'est comme trois mondes imbriqués l'un dans l'autre. Ça me fait un peu penser aux deux cités de Saint-Augustin. Deux cités qui sont, donc il explique dans la Cité de Dieu, deux cités qui sont mêlées, qu'on ne peut pas séparer, et pourtant qui obéissent selon des règles, selon des critères différents. Et donc, les rois, les très grands rois de l'ordre de l'esprit, apparaissent tels aux autres seigneurs de l'ordre de l'esprit. Mais quelqu'un du commun est absolument incapable de, d'estimer, d'admirer, de comprendre un très grand physicien, un très grand penseur. Donc il en va de même pour Pascal dans l'ordre de la charité. L'ordre de la charité est absolument gouverné, surmonté par Jésus-Christ, qui est quelqu'un de, d'invisible.
Invisible, sauf que lui, Pascal, d'un mouvement régulier, marqué par des dates d'ailleurs, 1646, un rapprochement accentué avec Port-Royal, 1654, un moment mystique, il est dans la quête d'un renouvellement constant de sa foi.
Oui. Il appartenait à une spiritualité, celle de Saint-Cyran, à une spiritualité augustinienne qui parlait beaucoup de conversion. Donc tous ces gens qui étaient tous très chrétiens au départ passaient leur temps à se convertir. C'est-à-dire se convertir, ça veut dire le devenir réellement, cesser de l'être par habitude, mais l'être vraiment par conviction et par engagement. Et donc Pascal a eu un certain nombre de conversions. Traditionnellement, on dit deux, mais certaines personnes disent trois. Pas de raison de s'arrêter, d'autres sont même allés jusqu'à quatre. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des ruptures dans son existence. Donc la grande rupture, la plus connue, c'est celle du 23 novembre 1654, c'est la nuit de feu, c'est celle du mémorial. Mais il y en a eu une autre après.
On va s'arrêter un instant au mémorial, si vous le voulez bien. Le mémorial, c'est un texte dont sa famille disait qu'il était calligraphié sur un parchemin et dissimulé dans la doublure de son pourpoint et qu'il avait jailli d'une expérience extraordinaire à la date que vous avez dite. Il est lu ici, du moins pour un de ses extraits, par Pierre Vanneck.
Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie, je m'en suis séparé. Des reliquérantes, mais fontaine à quoi vivez. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé. Je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen.
Voici parvenu avec vous, Laurent Tirouin, au sommet de la vie de Pascal, que nous parcourons d'une manière un peu cavalière, mais pas sérieuse, grave.
C'est encore un peu plus compliqué que vous ne le disiez, Jean Lebrun, le mémorial, parce que c'est en fait c'est deux textes. C'est un texte qu'il a écrit pendant la nuit, donc là qu'il n'a pas calligraphié, qu'il a jeté avec une extrême vivacité. Alors en même temps, en lui donnant une forme, presque une forme graphiquement poétique. C'est pas une calligraphie, mais c'est une étrange disposition dans la page. Et donc ça, il le rédige pendant les dernières heures de la nuit. Il le date d'ailleurs très exactement. Ça m'a toujours frappé que quand on parle de la conversion de Claudel, on parle d'un pilier, on parle d'un lieu. Quand on parle de la conversion de Pascal, il faut parler d'un temps. On ne sait pas du tout où ça s'est passé exactement, mais on sait que ça s'est passé entre 22h30 et 0h30. Hein. Donc ça s'est passé pendant 2 heures au cours d'une nuit. Et puis après, il a repris ce texte. Il a écrit sur un parchemin, un tout petit peu modifié. Là, il a calligraphié sans doute. Et puis il a mis le premier texte dans le deuxième. Et il a toujours gardé l'ensemble, ces deux textes emboîtés. Il les a toujours gardés dans la doublure de son pourpoint. Voilà.
Mais si on s'arrête un instant au style, il n'y a pas de recherche de l'éloquence. D'ailleurs, c'est un texte qui n'est pas destiné au public, mais c'est l'expérience naturelle qui se dit par des phrases très courtes, par des mots séparés par des points. On n'écrivait pas comme ça du tout au XVIIe siècle.
On n'écrivait pas comme ça, non, non, non. Alors, il passe pour avoir inventé ce style bref, ces formes percutantes. Non pas qu'il soit incapable de faire des grandes périodes, il y a quelques très belles et longues phrases, mais lui estimait par-dessus tout le style naturel. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait le sentiment que ça soit un homme qui parle à travers une, à travers des mots et non pas un auteur. Il y a une pensée qui le dit, quand on s'attend à trouver un auteur et qu'on trouve un homme, on est absolument ravi. Et il a cherché toute son existence à parler en tant qu'homme. Donc que ça soit pour faire de la théologie, mais même des mathématiques, même les, je fais toujours cette expérience. Moi, je suis pas du tout un grand mathématicien, loin de là. Et pendant que du temps que je lis un texte de Pascal mathématique, je me sens quasiment mathématicien. J'ai l'impression que tout devient clair.
Parce qu'il y a l'élégance du raisonnement et il y a le souci de l'accessibilité.
Le souci de l'accessibilité, là, il est entièrement tendu vers le travail de communication, de se faire entendre.
Je ne vous ai pas laissé parler de la troisième conversion, si tant est qu'on puisse la dater. On en parle avant de parler des pensées ou après ?
Bon, ça sera vite dit, mais c'est les derniers mois de sa vie où il se débarrasse de ses livres, où il tient absolument à... Il refuse d'être soigné, et comme sa famille veut qu'il soit soigné, il impose qu'il y ait un pauvre qui vienne pour qu'au moins les soins qu'on lui accorde soient partagés avec un pauvre. Il s'agit de quelqu'un qui a vécu jusqu'au bout sa conviction, tout en faisant ce travail, donc les derniers mois de sa vie, qui était l'instauration de ses... Carrosse à cinq sols, hein, c'est la création de cette entreprise.
L'entreprise qui est précurseur des omnibus et des autobus, ouais. Et où il investit la quasi-totalité de sa fortune. Mais restons, parce que c'est un fil embrouillé, sur la question des pensées dont on retrouve, sous forme de liasse, j'imagine, vous nous l'expliquerez, le texte au moment où il meurt en 1662. Comme j'ai dit qu'on était grave, mais pas sérieux, ici c'est un extrait d'une émission de Réveillon, de la Tribune de Paris de 1955. Max Favalelli est dans le rôle d'un directeur de théâtre, Les Folies, Rivoli.
J'ai dégoté ce bouquin, par hasard, dans le cartable de mon fils, Les Pensées. Et j'ai lu ça entre deux rendez-vous. Eh bien, mon cher, ça n'est pas mal du tout. Et puis, une idée m'a traversé la cervelle. Ce truc-là, mais c'est tout à fait ce qui est au goût du jour.
Ah, vraiment ?
Mais vraiment ! Les pensées Pascal. Vous voyez ça d'ici ? Hein ? Quelle affiche ! Alors, cher ami, il faut que vous me fassiez une très jolie petite adaptation des pensées. Une vingtaine de tableaux avec du suspense, du langage noble, tout juste compréhensible. On commandera des décors à Léonore Fini et on chargera à rouleau de la mise en scène. Et faites-moi confiance, c'est dans la poche.
Vous croyez ? Vous n'avez pas peur que...
Quoi, peur de quoi ?
Le titre, tout d'abord, Les Pensées...
Pas très commercial. Bon, on peut tout de même pas les changer. Appeler ça, Pensez-y, Blaise, non ?
Et l'interprétation, vous y avez songé ?
Alors là, mon cher ami, aucune difficulté. Qui vous voudrez ? Mais exactement, qui vous voudrez ? Je sais pas, moi, mais Arletty.
Certains auteurs, parlant de leurs ouvrages, disent « Mon livre, mon commentaire, mon histoire, etc. » Ils sentent leurs bourgeois qui ont pignon sur rue et toujours un chez-moi à la bouche. Il ferait mieux de dire notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc. Vu que d'ordinaire, il n'y a plus en cela du bien d'autrui que du leur.
Quelle préféreriez-vous, je ne sais pas moi, Michel Simon ?
Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d'autres et qui, en ôtant le tronc, s'emportent comme des branches. L'exemple de la chasteté d'Alexandre n'a pourtant fait de continent que celui de son livrognerie, elle fait d'un tempérant.
Oui, mais, mon cher directeur, si par hasard, ça ne marchait
pas... mais nous ferions comme tout le monde. Nous reprendrions du Georges Feydeau.
Et vous vient un mot d'esprit à la mémoire, dont vous ne vous souvenez plus de l'auteur, mais nos auditeurs nous diront ça d'ici demain.
Mais quelqu'un qui disait que en attendant Godot de Beckett, c'était les pensées de Pascal jouées par les Fratelli.
Fratellini.
Pas les Fratellini, oui, pardon.
Ouais.
Voilà. Mais le titre, Les Pensées, pas très commercial, disait votre. Mais c'est pas le titre de Pascal. Je crois que Pascal aurait été rouge de honte que court sous son nom quelque chose qui s'appelait Les Pensées, comme si Pascal avait eu des pensées à écrire. Donc, non, il n'a pas écrit de pensées. Il a écrit, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'il a écrit. Il voulait écrire quelque chose que les critiques aujourd'hui appellent une apologie, mais comme personne ne sait trop ce que c'est qu'une apologie, ça ne mange pas de pain. Il voulait servir la religion à sa manière, et je crois, moi j'imagine qu'au moment de sa mort, quand ses amis se sont précipités pour voir qu'est-ce qu'il avait écrit, ils ont été absolument horrifiés, consternés, de se rendre compte qu'il n'y avait rien, que c'était inutilisable. Donc, et je pense que c'était même pour eux un scandale religieux.
Alors, ils ont fabriqué un tombeau avec
voilà,
des pensées.
Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils se sont lamentés pendant un certain temps, puis alors après, ils se sont dit, non, c'est pas possible que ça soit si le bazar. Donc, ils ont fait recopier immédiatement le désordre tel qu'ils le trouvaient. Et puis, quand ils ont eu le désordre bien au propre, donc on a ces copies. On a des copies du désordre originel. Donc là, ça devient beaucoup plus lisible. Et là, on se rend compte qu'en effet, ça a l'air désordonné. Et pendant 7-8 ans, ils ont été à se demander, est-ce qu'on va en faire quelque chose ou non? Et puis, heureusement pour nous, ils ont quand même décidé d'en faire quelque chose, et ils ont inventé ce livre, qui est inventé donc 8 ans après la mort de Pascal, et qui s'intitule « Pensée de Monsieur Pascal ».
Et qui est un monument à Port-Royal, autant qu'un tombeau pour honorer Pascal. Et après, à partir du milieu du 19e siècle, les uns et les autres, de Victor Cousin à Jean Ménard, qui vient de disparaître, on cherche à recomposer le plus exactement possible les pensées. Vous, qui êtes un homme moderne, vous diriez que les pensées relèvent peut-être des humanités numériques et qu'on peut les traiter ainsi.
Je dirais une chose avant d'abonder dans votre sens, parce que c'est quand même important. Pascal disait lui-même, il écrit dans les pensées qu'il n'a rien dit de particulièrement nouveau, mais que ce qu'il a fait d'absolument inouï, c'est de disposer les matières d'une manière qui n'avait jamais été faite. Hein. Et il utilise la métaphore du jeu de paume, on utilise la même balle, mais l'un la place mieux. Donc lui, il la plaçait mieux, la mieux disposée. Donc il est essentiel de connaître sa disposition. Et la disposition, on a des moyens aujourd'hui de la connaître, il n'est pas du tout facile de l'interpréter.
Il y a un site maintenant.
Il y a un site qui donne accès à toute personne qui le souhaite, à la totalité des éléments les plus abordables et les moins abordables qui permettent de construire les pensées de Pascal. Donc c'est un site qui est conçu par Dominique Descôtes et Gilles Proust à Clermont-Ferrand, qui est alimenté par un séminaire universitaire bien régulier, qui prend toutes les pensées les unes derrière les autres, et en tout cas qui est ouvert à tous. Et donc, vous allez sans doute nous donner l'adresse.
Non, on va le trouver sur le site de l'émission. On va surfer de site en site. Ouais. Grâce à vous, Laurent Thirouin. Cette émission a été préparée par Franck Olivard avec à la technique Éric Morin. La réalisation, c'était Valérie Aestaray. Et on va parler mathématiques dans un instant avec Mathieu Vidard. Juste un très léger décalage, mais toujours un peu le même souci.
Voilà, Claire Voisin qui recevra demain la médaille d'or du CNRS. On va parler de géométrie algébrique et Hugo Duminil-Copin qui est chercheur en probabilité. Voilà le programme.
Et on met fin à la géométrie du hasard qui était un des objets de notre émission aujourd'hui.